Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père. On va aujourd'hui vous parler de l'or, mais on va surtout vous parler de l'or, pas véritablement en tant que monnaie, mais en tant que réserve de valeur dans le temps, par rapport à ce qu'on appelle des fiat monnaies.
Des monnaies qui sont faites par les hommes.
Voilà. Et on va essayer justement de vous expliquer en quoi l'évaluation des cours de l'or par rapport à des autres monnaies est un indicateur
très important
de l'économie et comment quelquefois dans l'histoire on se retrouve avec des sortes de cracks qui permettent de mettre en exergue le fait que l'or, oui, est une réserve de valeur dans le temps. Voilà, alors aujourd'hui, Charles... Parle-nous un petit peu, justement, pour introduire le sujet, de ce que sont véritablement les fiat monnaies par rapport à l'or.
Alors, les fiat monnaies, c'est dans le fond, comme on l'a souvent expliqué ici, une monnaie, c'est une convention entre des gens qui sont d'accord pour utiliser la monnaie. C'est la définition de Platon dont j'ai souvent parlé. Donc ça, c'est la convention. On utilise la monnaie parce que c'est pratique. Elon Musk a eu une intuition il y a quelque temps dont je me sers beaucoup aujourd'hui parce que j'ai aucun problème à piquer les idées des autres à condition de les nommer après. Donc Elon Musk a eu une idée brillante. Il dit dans le fond le système économique c'est que vous échangez des biens, des services. S'il y a au niveau économie des biens, des services et on échange ça. Et pour faire tourner ça en évitant le troc, on a inventé un operating system, un système opératoire, je crois. Mm-hmm. Non, opérationnel, je sais pas. Opérationnel, je pense.
Operating system
en anglais, mais chaque fois on se bourre.
Oui, et à chaque fois ils me le disent.
C'est un système opérationnel.
Système d'exploitation.
Heureusement. Merci beaucoup. On invente un système d'exploitation qui est la monnaie. Donc, là-dedans, qu'est-ce que tu mesures dans le système d'exploitation qui est en haut? Si tu imagines que le système est en bas, tu as un système d'exploitation qui fait tourner comme un Microsoft.
Oui, je comprends.
Et qui fait tourner ça. Et là-dedans, on a besoin de quelque chose qui soit à la fois unité de valeur, qui soit réserve de valeur et qui soit outil d'échange. Tu vois, c'est les trois fonctions de la monnaie. Donc, on invente des trucs qui n'ont pas de réalité économique à la limite. Et pour que le système fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait trop de grandes distorsions entre la monnaie dont on a besoin en bas et la monnaie qui est créée là-haut.
Bien sûr.
Si tu en crées là-haut, elle va perdre sa valeur par rapport au système en bas. Ça s'appelle l'inflation. Si tu cesses de s'en créer, on va avoir une dépression et la monnaie prendra de la valeur. Donc, c'est une espèce d'équilibre à maintenir entre le système d'exploitation et le système économique. Et il faut bien dire que depuis à peu près... La grande crise financière qui a été suivie par la crise de l'euro en 2012, nos banques centrales dans la zone de l'OCDE sont devenues folles.
Mais attends, en 2008, la création monétaire avait aussi été faite énormément par les banques commerciales.
Par les banques commerciales, mais ça c'était une erreur, ça a été corrigé.
Parce qu'aujourd'hui...
Elles avaient été faites par les banques commerciales parce que la banque centrale avait mis les taux d'intérêt à un niveau trop bas.
Aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Mais non, mais pas du tout, ce n'ont plus les États qui créent les monnaies, ce sont les banques commerciales. » Je dis « Depuis 2008, c'est plus vrai, puisque la BCE... »
C'est une très bonne remarque. Prenons le premier graphique que vous avez, qui est la base
qui
monétaire aux USA.
Sur vos écrans.
On va essayer de regarder cette histoire de création de monnaie par la banque centrale. Parce que les banques commerciales, elles créent de l'argent, mais en fait, on peut en discuter si vous voulez, mais si elles créent de l'argent, par exemple, pour prêter à l'immobilier, il faudra un jour ou l'autre qu'il soit remboursé et cet argent disparaîtra.
Oui.
Donc tu vois, quelque part, la création commerciale par les banques, c'est un machin qui est embêtant, mais qui se règle avec le temps si les taux d'intérêt sont suivis.
Oui, mais quand tu as un prêt immobilier qui va être sur 30 ans, quand même, dans le temps que la monnaie soit détruite, on a quand même cet agrégat monétaire qui a énormément grandi.
Ça peut arriver. Mais en réalité, la vraie création monétaire, c'est par les banques centrales quand elles se mettent à acheter le déficit budgétaire de l'État.
Oui, bien sûr.
Quand elles font fonctionner ce qu'on appelait autrefois la planche à billets.
La bonne vieille planche à billets, qu'on appelle en anglais le QE.
Ce n'est pas le quotient émotionnel,
c'est le... Quantitative easing,
qui est une autre façon de dire planche à billets, mais qui inquiète moins les foules. Donc vous prenez ce graphique dont la ligne bleue, c'est le cours de l'or, et la ligne rouge, c'est dans le fond la taille du bilan de la Banque Centrale Américaine. Donc vous voyez, ça montait, je ne l'ai pas mis sur le graphique là, mais la ligne rouge montait de façon assez régulière, de 1970 à 2018 à peu près. Ça montait de 3% par an, donc c'était tranquille, ça grappait.
Ce qui était à peu près ce que Milton Friedman avait toujours dit, une monnaie doit augmenter de 3% par an.
D'ailleurs, ils avaient mis le cliquet à 3%, et puis ils avaient jeté la clé. Et puis ils ont retrouvé la clé. Regardez ce qui se passe en 2008-2009. La quantité de monnaie passe de 400 à plus de 800. C'est-à-dire que d'un seul coup, le bilan de la Banque centrale, en l'espace de très peu de temps, double.
Incroyable.
Ensuite, bon, on a une petite période de tranquillité. Puis pendant la crise de l'euro, donc en 2012, deuxième poitier sur le graphique, vertical là, deuxième poitier sur le graphique, on passe, je regarde à droite, on passe d'à peu près 600 à peu près quasiment 1600. Donc, pouf, il vous rajoute. Et puis ensuite, dernier, Covid, on passe de 1600 à quasiment 2500. Donc, oui. Vous voyez, il y en a eu, en l'espace de 10 ans, trois injections de monnaie de banque centrale qui ont fait que la monnaie de banque centrale est passée de 400 à 2600 ou 2500. Ça veut dire que si vous prenez les États-Unis depuis leur indépendance, ça devait être dans les années 1770 par là, plus de la moitié de la monnaie a été créé, existe aux États-Unis, aujourd'hui a été créé dans les 10 dernières années.
Oui, mais d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as en commun avec Anis Ladjev, oui. de constater qu'effectivement, la création monétaire de ces dernières années
a été insensée.
Et des deux côtés de l'Atlantique.
Oui, parce qu'eux, ils l'ont fait parce qu'ils avaient fait des bêtises en 2008-2009 à cause de cet animal de Bernanke, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour l'ensemble de son œuvre. Il a foutu en l'air le Japon et maintenant les États-Unis, ce qui est quand même, ça mérite un prix Nobel. Parce qu'avant, quand le Japon a explosé, c'était Bernanke qui était le conseiller favori des Japonais politique monétaire. Puis ensuite, on l'a mis à la Fed. Parce qu'après avoir détruit l'économie japonaise, on pensait que le moment était venu de détruire l'économie américaine.
C'est-à-dire qu'une première grande déflation ne suffisait pas.
Une première grande explosion ne suffisait pas. Il en a fait une deuxième. Bon. Voilà. Tout ça prouve que tous ces braves gens sont très honnêtes et très compétents surtout. Donc maintenant, on a un problème absolument gigantesque. C'est que on se retrouve avec des dettes, parce que la contrepartie de ça, c'est une émission de dette et déficit budgétaire. Donc, je vais vous donner les chiffres aujourd'hui, que je cite de mémoire, hein, s'ils sont à peu près justes, comme d'habitude, mais de temps en temps, je me gourde à zéro parce que les chiffres sont devenus tellement grands que je sais plus très bien tellement c'est gros, quoi. Mais donc je vais vous donner les chiffres. Dans le PIB américain fait, mettons, 25 000 milliards de dollars, donc 23 000, 25 000. Bon. Dans les 12 mois qui viennent, la dette qui arrive à échéance aux États-Unis, qui doit être représentée en quelque sorte, il faut la racheter, il faut que quelqu'un la rachète, va être d'à peu près 7 500 milliards de dollars.
D'accord.
C'est-à-dire à peu près le tiers du PIB, quoi. C'est déjà pas mal. Auquel il faut ajouter à peu près 2500 milliards de dollars de nouvelles dettes, parce que leur déficit budgétaire est de près de 8%.
D'accord.
Donc ça fait 10 000. La totalité des dépôts bancaires aux États-Unis, c'est 20 000 milliards de dollars. Donc je regarde ça et je me dis, mais comment peut-on financer un déficit de... Il faudrait que la moitié des dépôts bancaires aillent à acheter la dette. Mais c'est même pas possible.
Non.
Parce que les gens, ils s'en servent pour bouffer, pour faire des investissements. Enfin, je ne vais pas consacrer la moitié de mon argent
à aller acheter l'université de leurs enfants.
Acheter des obligations.
Acheter le crédit de la maison.
Donc, ce que vous voyez très bien sur ce graphique, c'est quand
Toujours le premier.
Quand vous regardez ce graphique, vous vous dites, mais il y avait une inflation qui n'était pas totalement d'origine monétaire au début des années 70, et l'or avait explosé. Hein.
Oui.
Puis quand les Volcker est arrivé, donc
augmentation
des taux, et à ce moment-là, l'or ne monte plus, il baisse et il reste aux alentours, mettons, les 400, pendant un grand moment, il tombe même en dessous de 300. Vous savez quand on a fait le plus bas, là, sur le 300?
Oui, non.
Mais je vais vous raconter, c'est merveilleux, ça. C'est le premier ministre anglais, qui s'appelait M. Brown, qui a décidé que l'or, ça valait pas la peine, et il a vendu la moitié des réserves de change anglaises en or.
Bah nous aussi, Sarkozy a vendu toutes notre réserve.
Il en a vendu un petit peu, mais lui, il a vendu la moitié, quoi. Donc il a fait le plus bas. Et maintenant, il est parti.
Et il n'a pas eu en tête de se dire, je vais le liquider petit à petit. Il l'a vendu d'un coup, histoire qu'on ait un beau trou.
Donc voilà. Le trou, là, c'est la vente des réserves d'or de la Banque d'Angleterre.
Bien, joli.
Bien, et ensuite, vous voyez très bien que ça suit parfaitement, parce que ce que se dit le marché de l'or, ou les investisseurs dans le marché de l'or, c'est de se dire, bon, bah, ils ont dans la sphère de le, donc du système opérationnel, là-haut, ils ont créé 3 ou 4 fois trop de monnaie. Donc, ça veut dire que ben, la valeur de cette monnaie va baisser. Et la façon où vous le voyez le plus rapidement, c'est dans le cours de l'or. Mmh. Le cours de l'or dit, lui, moi, vous savez, dans le fond, il faut que j'ai une espèce de ratio à peu près constant entre la taille du bilan américain et le cours de l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui est extraordinairement curieuse. Et c'est pour ça que depuis un petit moment, je dis, j'ai du mal à expliquer ce qui va se passer parce que on n'a jamais eu une situation comme ça. C'est-à-dire qu'on a des déficits de 8% aux États-Unis du PIB ou de 7,5%. On a des refinancements absolument monstrueux. La Banque centrale est en train d'essayer de faire baisser la taille de son bilan en disant « j'ai fait des bêtises, il faut que je les paye maintenant ». Et j'ai pas la moindre idée de qui va acheter ces obligations américaines pour financer tout ça. C'est-à-dire, ça va pas être les étrangers. Non. On a souvent parlé du dollar, on a dit à partir de maintenant où les gens ont plus besoin de dollars pour acheter leur pétrole, leurs réserves de change, ils en ont pas besoin. Donc ils vont plutôt vendre les dollars qu'ils gardaient pour acheter du pétrole. Donc c'est pas les étrangers. C'est pas les consommateurs américains parce que bah, ils ont pas assez d'argent pour acheter tout ça. Ça va être les banques, bah, elles en sont déjà bourrées. Et puis donc, ça
est-ce que tu penses que les États-Unis peuvent faire faillite?
Non, ils peuvent pas faire faillite. Mais ce qui est en train de se passer dans les marchés, ce à quoi je m'attendais un peu, c'est qu'il commence à y avoir une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as vu, tu as peut-être lu dans les journaux que les taux d'intérêt montaient partout en France,
en
Europe.
Oui, bien sûr, on en parlait hier encore.
Les taux d'intérêt montent partout en France, en Europe. Ben, ça veut dire que les gens sont en train de vendre tous les actifs du système là-haut. Ils ne vendent pas les actifs. En fait, ils disent, bon, moi, l'or ou les actions Air Liquide, ça vaudra toujours quelque chose. Tandis que ces machins-là, comme on arrive dans une impossibilité, l'une des postes de sortie, c'est de dire, ben, d'abord, la monnaie va se péter la gueule des deux tiers.
Donc là, toutes les personnes qui auraient des dollars
en cash, en obligation, ça fait un petit moment que je le dis, il faut avoir ni en Europe ni aux États-Unis
aucune position en dollars.
Aucune position en cash, aucune position en obligation. Parce que c'est cela.
Les obligations, je pense que les gens l'ont entendu depuis le temps. Quoique, j'ai une dame hier soir dans un dîner qui m'a encore dit « Mais il y a des très bons taux sur les obligations européennes. » Je dis
« Dur moment.
Ouais. » Madame Galidzine, qui était très gentille, mais je dis que
c'était... Ah, c'était la femme de Pierre ?
Celle qui est musicienne.
Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'était elle, parce que Pierre Galidzine, c'était un...
Très intelligente.
J'ai été associé avec lui à un moment, il y a très longtemps. C'était une famille d'origine russe. Hein.
Oui.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a suivi une politique monétaire insensée et on est aujourd'hui dans un scénario où il n'y a pas de sortie logique. Et donc, à ce moment-là, ben, l'or retrouve tout son intérêt parce que qu'est-ce que c'est que l'or ? C'est un machin, on ne sait pas très bien pourquoi, mais depuis à peu près 5000 ans, les gens sont mis d'accord pour dire que ça conservait la valeur. Alors, ça conserve la valeur, ce que je vais le dire rapidement, mais des biens et services sur lesquels il n'y a pas de gain de productivité. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si vous devez vous faire couper les cheveux, ça sera à peu près le même prix qu'à Rome il y a 20 siècles. Quoi. C'est à peu près ça. Ou si vous voulez vous faire un costume dans la City, un costume convenable dans la City, ce sera le même prix qu'en 1800, quoi. Ou en 1810 à Londres. Donc, ça garde la valeur dans les trucs où il n'y a pas de gain de productivité. Mais ça n'est pas un bon investissement quand on est dans une période où les choses sont normales, parce qu'en achetant des actions, vous profitez de la croissance.
Et du dividende.
Et le dividende monte de façon régulière, et donc vous êtes protégé, et ça vous permet de vivre. Parce que là, si vous avez peur pour votre capital, c'est-à-dire si, et que vous ne trouvez pas une façon de le protéger en utilisant le système opérationnel du dessus, là, le système de...
D'exploitation.
Le système d'exploitation haut, il n'y a aucune façon aujourd'hui de se protéger dans le système d'exploitation. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire cette espèce de création complètement théorique de ce qu'est la monnaie, de ce que c'est. Il n'y a plus d'outils à l'intérieur de ça pour te protéger. Et donc, tu es obligé de descendre. Et donc, soit tu te mets 100% en action, soit tu te mets 100% en or, soit tu te mets moitié-moitié. Ce que je veux dire, c'est un peu le portefeuille de l'idéal, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Oui. Ou alors, tu vas chercher des systèmes d'exploitation en dehors de chez nous, par exemple, pour ça que j'avais recommandé les obligations chinoises ou les obligations en Amérique latine, parce que là, ils ont des systèmes d'exploitation qui continuent à fonctionner normalement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, on a détruit nos systèmes d'exploitation de la monnaie. Et donc, moi, je fais tout mon boulot, qu'est-ce que c'est depuis 40 ans ou 50 ans, c'est d'essayer de comprendre les relations qui unissent le système d'exploitation avec l'économie en dessous. Temps en temps, celui-là est trop haut, temps en temps, celui-là est trop bas, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu fais des arbitrages entre les deux, et c'est comme ça que tu en sors, t'as fini de ronfler, toi.
Et encore, c'est rien par rapport à ce qu'il peut faire. Là, il donne pas tout.
Hein. Oui, il fait mieux, oui. Je l'ai déjà eu à la maison à Avignon. Ouais. Et en effet, il peut. Je le sortais à coup de pied dans les fesses de la chambre, d'ailleurs, parce qu'il faisait un peu, il faisait bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, depuis, on a eu des périodes comme ça, mais plus en Occident. La dernière grande hyperinflation dans un grand pays, ça a été l'hyperinflation en Chine à l'époque de Chiang Kai-shek. C'est-à-dire quand il y avait la guerre civile entre les républicains et les communistes, là, l'inflation est partie. C'est une des grandes raisons qui ont amené à la victoire des communistes. Ou bien, on a eu l'Angleterre qui a pas été loin de l'hyperinflation dans les années 70. Là aussi, ils avaient détruit le système en haut. Donc, c'est pour ça que je suis très gêné aujourd'hui, c'est que je dis, bon, ben, j'aimerais bien vous donner des conseils, mais il n'y a pas de façon de rester dans le système d'exploitation là-haut sans vous faire massacrer.
Et tu penses que, comme les deux exemples que tu viens de donner, les États-Unis puissent rentrer dans une phase d'hyperinflation, du coup? Il y a déjà une inflation galopante, enfin, à deux chiffres, je crois. Est-ce qu'elle pourrait s'accélérer d'un coup?
Ben oui, c'est-à-dire que...
Sur l'alimentaire ou des choses comme ça?
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très curieux. Comme je l'ai dit au début, la monnaie, c'est une convention. Donc, tu acceptes de t'en servir, bon, tu dis ça marche. Puis, à partir d'un certain moment, il y a quelque chose qui se prête dans l'esprit du public et ça, on peut pas le déterminer. Parce que c'est un truc complètement psychologique.
Bah, c'est comme, ça, c'est la confiance que tu as en quelqu'un. La confiance est rompue,
C'est fini, quoi. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il se passe ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire que les gens, ils touchent de l'argent. Et à peine l'ont-ils touché qu'ils essayent de le transformer dans des actifs qui sont dans le système du bas, tu vois.
Boîtes
de sardines.
On le voyait énormément dans l'ancien rideau de fer. C'est-à-dire tout de suite, ils essayaient d'acheter un jean 501, même une Lada, enfin n'importe quoi.
Avoir quelque chose de tangible. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui avait été en Albanie, qui était sur Enverojda, c'était pas le paradis sur Terre, enfin, c'était vraiment dur, c'était pendant les années communistes, c'était pas drôle. Et il avait découvert avec stupéfaction que ce qui servait de réserve de valeur en Albanie, c'était les parpaings. Donc, les parpaings pour faire des maisons, les parpaings. Donc, dès qu'ils recevaient de l'argent, les types, ils se précipitaient pour acheter des parpaings parce que, avec ça, tu pouvais faire une cabane, une maison, etc. Et donc, tu vois, c'est ce que j'appelle une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que la monnaie ne vaut rien.
Sympa, en cadeau de mariage, je vous apportais un beau parpaing.
Ah oui, mais je sais bien, probablement la mariée était enchantée, tu vois.
Ouais, c'est quand même, tu te balades avec ton truc, ça fait 7 kilos, quoi.
Et dans les camps de concentration pendant la guerre, où c'était les cigarettes.
Oui, oui.
Les cigarettes servaient de monnaie. C'était donc dès que tu recevais quelque chose, tac, t'achetais des cigarettes parce qu'avec ça, tu pouvais monter un petit commerce dans le camp, quoi.
Mais tu te souviens pas de ton frère quand il allait parce qu'il travaillait à l'époque, je crois que c'était au
Crédit Agricole.
Quand il allait en Roumanie
ou en
Russie, il y allait avec des jeans 501 parce qu'avec des jeans 501. Il pouvait les échanger contre des boîtes de caviar comme ça.
Avec des jeans, ça, il avait aussi, il amenait, c'était donc dans les années 70-80, et il amenait aussi des petites machines à calculer. Parce que ça, alors là, il payait tout, il distribuait ses trucs, il payait tout avec ça. Ça valait rien en France, ça valait 5 ou 10 francs. Et avec ça, il payait ses courses de taxi pour une journée parce que les types étaient comme des fous d'avoir une machine. Donc, on se rend bien compte à ce moment-là que la monnaie perd, il y a une fuite devant la monnaie. Donc, la grande question qui va se poser dans les mois qui viennent, c'est est-ce que on va passer à ce moment où la fuite devant la monnaie commence? Parce que si ça commence vraiment, c'est quasiment inarrêtable. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une avalanche.
Oui.
Ça part un petit bout d'une petite boule qui tombe comme ça, puis ça devient en bas, ça te noie la vallée, quoi. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire, mais personne n'a jamais réussi. Tout le monde sait que ça peut se produire. Mais personne n'a jamais réussi à déterminer l'élément déclenchant, le truc qui fait claque. Et je commence à voir, en particulier dans les marchés financiers, des signes que j'ai vus en Turquie il y a à peu près 2-3 ans, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une fuite de la monnaie en Turquie, il y a eu une inflation qui était à 70%, 80%. Et donc, au début, les actions ont baissé, comme les obligations sont pétées la gueule, les deux ont commencé à se baisser. Puis à partir d'un certain moment, les actions qui représentent une vraie valeur, hein, elles ont cessé de baisser, elles se sont même mises à monter. Alors même que les gens échangeaient leurs billets ou leurs obligations contre des actions en se disant, et si tu fais le calcul depuis le début de l'inflation en Turquie, le gars qui a gardé du cash ou des obligations, il a perdu 95% de son pouvoir d'achat. Le gars qui a acheté des actions, il a monté de 30%. Donc, la fuite devant la monnaie, c'est quand les gens ne veulent plus utiliser les instruments au-dessus, oui, et se rabattent sur le système d'en dessous. Et c'est peut-être ce qui va nous arriver. Encore une fois, j'en sais rien, mais c'est un élément dans les marchés financiers qui se produit de temps en temps. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que je viens de passer quelques temps avec mes associés. Il y en a un certain nombre qui ont un peu de bouteille, d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Ça s'est passé à Paris, où pour mon 80e anniversaire, on avait réuni les troupes de partout, de tous les pays du monde, là où Gavcal a un bureau. Et alors, les anciens comprennent très bien ce que je veux dire.
Oui.
Et les jeunes, pas du tout, parce qu'ils sont tous habitués à un monde où les choses retournent naturellement à l'équilibre. Tu vois, c'est bon, tu vas faire un marché de bien trop cher, trop bon marché. Ou... Donc eux, ils recherchent, ils travaillent dans leur tête, littéralement, avec une hypothèse implicite de retour à la moyenne. C'est-à-dire que si on s'est beaucoup écarté, on va revenir.
Oui, ce qui
marche 95% du temps. Mais ce que je dis aux gens, c'est que je suis pas sûr que ce coup-là, on va avoir un retour à la moyenne. Donc, il vaut peut-être, à mon avis, il est beaucoup moins dangereux d'avoir 50% en actions et 50% en or que d'avoir une obligation qui apparaît comme ta dame que tu as eue hier, avec qui a des taux d'intérêt intéressants. Ben non, ils sont pas intéressants parce que
c'est le risque inhérent en dehors de voilà. Ah oui, mais un État peut pas faire faillite. Oui, mais enfin bon.
L'État peut faire faillite, mais les gens qui l'ont prêté peuvent.
Ouais.
C'est ce que je me tue à dire aux gens, c'est l'État fait pas faillite, mais vous ferez faillite. C'est ça que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Et donc la première des choses que je veux dire, c'est que dans le fond, l'or, c'est, comme on l'avait dit ici et tu l'avais dit, c'est une façon de voter avec ses pieds. Mmh. C'est-à-dire, si vous n'avez plus confiance dans le système du dessus, vous pouvez vous barrer dans un autre pays, essayer de transférer vos actifs, mais c'est pas facile. Mais vous pouvez rester chez vous et acheter des louis d'or, quoi. Donc, la première des choses qu'il faut dire, donc, quand on parle de l'or, c'est qu'on est dans une période où on n'est pas sûr que le système d'exploitation de là-haut va continuer à fonctionner à la satisfaction de tout le monde. Donc, c'est une des raisons d'avoir de l'or. La probabilité est que j'ai tort. Mais si j'ai raison, c'est très important. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas une probabilité de zéro. Depuis 50 ou 60 ans, c'était une probabilité de quasiment zéro. Donc, bon, on peut avoir de l'or de façon cyclique, etc. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est que les démocraties, enfin les soi-disant démocraties, ont décidé, pour des raisons qui m'échappent, de foutre en l'air nos systèmes de monnaie. Et ça, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais...
Je ne crois pas qu'elles l'ont fait sciemment, elles l'ont fait parce qu'elles n'ont aucune compétence sur la question et que leur but premier était de sauver les États, leur permettre de s'endetter à bon compte.
Voilà, de continuer à s'endetter, c'est-à-dire d'aller dans une direction dont on sait qu'elle devra s'arrêter, mais pas tout de suite, monsieur le bureau, monsieur
oui,
le bureau.
Oui, c'est ça, encore un instant. Et donc, ils sont restés dans cette gabégie financière, sachant très bien que ça allait... Mais comme à chaque fois, ils se disent « one in trouble, double », ben, ils doublent.
Et ça monte,
et puis personne ne fait... Là, on a encore emprinté quoi, 384 milliards
284
milliards sur les marchés pour 2024. Quand est-ce que ça s'arrête?
Et en plus, il y a cet animal de Le Maire qui dit le désendettement de la France a commencé. Mais,
oui,
on rajoute 284 milliards, c'est le plus gros déficit, le plus gros appel au marché qu'on ait jamais fait.
Avec des indexés sur l'inflation?
Non, il y en a une partie qui était indexée sur l'inflation, mais avec des taux à 4 ou 4,5 qui sont supérieurs à notre taux de croissance nominale. Donc on est dans
une trappe à dette.
Voilà, on est dans une trappe à dette. Et alors il y a une autre explication que je vais fournir aussi ici qui me laisse pantois. je vais m'expliquer. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement canadien, où ils ont fait venir cet Ukrainien de 98 ans, et tout le monde l'a applaudi parce qu'il s'était battu contre la Russie, enfin contre l'Union soviétique quand il était jeune. Et attendez une seconde, moi qui connais un peu l'histoire, mais apparemment ils ne le connaissaient pas là-bas au Canada, un type de 98 ans qui s'est battu contre l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, il était avec les Allemands.
Bah oui, c'est ce qu'ils se sont rendus compte, que c'était un ancien nazi.
C'était un ancien SS. Mmh. Donc je crois qu'il y a toute une partie de gens qui nous gouvernent aujourd'hui qui n'ont aucune connaissance historique. Ils n'ont pas étudié la chute de la monnaie dans l'Empire chinois quand ils ont inventé le papier monnaie, c'était à peu près 700 ans après Jésus-Christ. Ils ont inventé, ils ont fait une très belle hyperinflation, là ça a pété la gueule, etc. Mais il y a Weimar dans les années 20, enfin il y en a un paquet d'hyperinflation. Mais je crois que les gars, en dehors du tableau Excel, ils savent rien. Donc je crois qu'on est gouverné aujourd'hui par des extraordinaires ignares.
On est gouverné par des hordes de McKinsey, de petits hommes gris qui ont effectivement des tableurs Excel. Et je crois qu'il n'y a personne en tête qui aurait une vision ou une...
Mais quel long terme en termes de comment ça marche dans la réalité. C'est ce qu'on essaie de faire ici d'ailleurs, de vous expliquer un peu comment ça se marche. Mais vous ne pouvez pas foutre en l'air le système d'exploitation sans que ça ait des graves répercussions sur l'économie en dessous. Quoi. Vous ne pouvez pas multiplier par 4 ou 5 la masse monétaire en l'espace de 10 ans sans que ça ait un impact sur l'économie réelle. Quoi.
Sur la population et sur l'inflation.
Sur l'inflation. Et encore une fois, c'est ce qui... Donc la première des choses, c'est qu'il y a peut-être, je ajoute un peut-être parce qu'on n'est jamais sûr de rien, surtout quand on annonce une probabilité de discontinuité. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des marchés, comme je l'explique tout le temps, fonctionnent à la marge. C'est-à-dire que le cours passe de 10 à 10 et quart, 10 et demi, 10 trois quarts, enfin ça monte doucement, ça s'équilibre. Mais j'ai vu des cas dans ma vie, par exemple en 87 pour des raisons techniques, où le marché a ouvert 23% plus bas que la veille.
Pourquoi ?
Parce qu'il y avait une telle avalanche d'ordre de vente qu'il n'a pas pu stabiliser.
Oui, non, mais ça, je comprends bien. Mais pourquoi il y avait des ordres de vente ?
Parce qu'il y avait toute une série. C'était une série des gens qui pensaient qu'on pouvait s'assurer contre les baisses. Donc, ils avaient mis au point des systèmes que si ça faisait moins 5%...
De put and call.
Oui, c'est ça. Si ça baissait de 5%, ils vendaient. Si ça baissait de 10%, ils continuaient à vendre, etc.
Ouais, donc,
et alors, ce qui s'est passé, ils se verdaient, c'est compliqué, mais ils vendaient en se servant des marchés futurs. Donc, en principe, le marché futur et le marché au comptant, il y a une toute petite différence. Mais s'il y a plein de vendeurs qui arrive, le marché futur va décrocher par rapport au marché au comptant. Et donc, à ce moment-là, ce que vont faire la plupart des gens, c'est qu'ils vont vendre le comptant et ils vont acheter le futur. Oui. Et donc, le comptant se pète la gueule, donc là, ça déclenche une autre série de ventes. Et hop, tu vois, c'est la marche d'escalier. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'était extraordinaire. J'avais envoyé à tous mes clients à l'époque en disant, bah, écoutez les gars, la seule solution pour éviter les cracks comme ça, c'est de débrancher les ordinateurs. Quoi. Donc c'était un cas technique, mais n'empêche, 23% de baisse en une journée, si tu avais des positions en levier, t'as perdu 100%.
Oui, et que t'as vendu à perte. Enfin, que
t'as appelé le marché qui dit, remettez-moi des marges. Remettez-moi du pognon ou je vous vends. Il y a des tas de gars qui sont fait liquider, qui ont tout perdu. Ouais. Donc, je veux dire, dans les marchés, de temps en temps, le marché cesse d'être continu. Et c'est là où il ne faut pas avoir de dette. Parce que si ça passe de 100 à 75 et ça remonte à 100, finalement, tu t'en fous. Mm-hmm. Mais si ça passe de 100 à 75, que tu as une position en levier de 4 ou 5 fois ta truc, tu as tout perdu, tu es vendu là, et puis tu ne revois jamais ton fric. Donc, c'est pour ça que je dis, surtout dans ces périodes de discontinuité, il ne faut pas avoir de levier.
Voilà, et il faut être dans le concret.
Il faut être dans le concret, essayer d'avoir des trucs, encore une fois, Air Liquide et de l'or.
Et d'un coup.
Vous achetez Air Liquide, enfin vous achetez un portefeuille DL et vous mettez le reste en or ou en obligation chinoise. Donc ça, c'est la première des choses, c'est donc la possibilité non négligeable d'une discontinuité.
Voilà.
À cause des erreurs qui ont été faites depuis 10 ou 12 ans. Alors, en ce qui concerne l'Europe, cette discontinuité est encore plus importante parce qu'il y a l'euro.
Oui.
Au moins, les Américains, ils ont deux avantages sur nous. Le premier, c'est qu'ils sont indépendants énergétiquement, avec leur fracking, leur truc de... Mm. Et le deuxième, c'est qu'ils ont un taux de change flottant, en quelque sorte. Tandis que prenez un pays comme l'Italie aujourd'hui, qui est en train d'emprunter, je ne sais pas combien, 4 ou 4,5, la France aussi d'ailleurs, et qui a un taux de croissance de 1 ou 2, et qui a une dette absolument monstrueuse. Ben, si vous faites croître votre dette monstrueuse, qui est à 130 ou 140% du PIB, à 4% et votre richesse à 1 ou 2%, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir qu'à un moment, ça ne passe plus. Quoi. Et donc, ce risque de discontinuité qui existe aux États-Unis à cause de des difficultés budgétaires de l'État américain dans lequel ils sont collés tout seuls, hein. Nous, on a rajouté une deuxième cause qui est l'existence de l'euro, qui empêche tout ajustement à l'intérieur de l'euro. C'est pour ça que j'avais publié un papier il y a à peu près une semaine, 15 jours, je crois, dans lequel je disais, bon, le dollar et l'euro sont très très vilains tous les deux, mais il y en a un qui est encore plus vilain. Quoi. Dans le concours de l'aider,
ouais,
l'euro est encore pire que le dollar. Donc il me semblait logique que maintenant l'euro décroche un bon coup, quoi. Vis-à-vis d'un dollar qui est dégueulasse.
Oui, bah. On ne sait que choisir, Thérèse.
On ne sait que choisir. Ben, ce que j'ai dit, ce que j'expliquais il y a bien longtemps, au début de ma carrière, aux Suisses, etc., je leur disais, vous savez, les monnaies, elles baissent toutes, allez, hein. Même le franc suisse, il finit par baisser en pouvoir d'achat. Mais elles ont des parachutes attachés au-dessus. Donc, il y a des monnaies comme le franc suisse qui ont des très gros parachutes. Et si tu es dans une monnaie qui a un tout petit parachute, tu as l'impression, quand tu descends, que lui, il monte. Que toi, tu parce que tu descends beaucoup plus vite que lui.
Oui.
Tu vois, c'est le genre de Tintin, là, les deux Dupont qui sortent de la Jeep parce qu'il y a une voiture qui les a doublés à 200 à l'heure. Quoi. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont arrêtés. Ben, c'est un peu ça qui risque de se passer. Donc, il faut essayer de trouver. Et c'est là où l'or, dans le fond, ben, c'est lui qui a le plus gros parachute.
Oui, dans ce genre de situation.
Dans ce genre de situation. Donc, c'est complètement idiot ce que je vais dire, mais Dieu sait que j'ai parlé de la parabole des talents. Mais compte tenu de la façon dont nos économies sont gérées, j'ai pas le moindre doute que les deux bons serviteurs qui avaient, ils vont pas doubler dans les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent, les talents que va leur donner que leur a donné leur maître, hein. Celui qui s'en sortira le mieux, c'est peut-être celui qui va enterrer son talent, quoi. C'est complètement con. Mais tu vois, mais c'est complètement con, mais je suis obligé de le dire. C'est effrayant.
Et donc, si on prend le second graphique, qui est le ratio or contre la base monétaire américaine.
Voilà.
Donc la base monétaire, tu l'avais expliqué tout à l'heure,
c'était
MO.
La taille du bilan.
Voilà. Donc parle-nous un peu de celui-là. Donc.
Ben, vous voyez, quand la base monétaire, quand dans le fond, quand vous êtes dans ce graphique en haut, vous avez donc le ratio entre la base monétaire et le cours de l'or. Oui, c'est ça. Et donc, ben, quand la base monétaire accélère très vite, que les marchés n'aiment pas ça, ben, l'or se met à monter encore plus vite que la base monétaire. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est presque une histoire de dérivée, c'est-à-dire que les marchés se disent « ça pue », donc l'or monte plus qu'il ne devrait.
D'accord.
Tu vois, parce que les gens anticipent que la bêtise va continuer. Et puis arrive Volcker, au début des années 80, et l'or avait beaucoup, beaucoup accéléré. Et d'un seul coup, je vais vous donner un exemple quand même, parce qu'il faut que les gens comprennent. Dans les marchés financiers, il y a des produits qui s'appellent les zéro coupons. C'est-à-dire que vous achetez un zéro coupon, mettons à 50, allez, et en 10 ans, il passera de 50 à 100. Vous ne touchez pas de taux d'intérêt, mais c'est le passage de 50 à 100 qui fait votre rentabilité. Vous êtes certain de doubler. Donc, en quelque sorte, l'État ou l'émetteur émet à 50 et vous remboursera à 100. Et en attendant, il ne paye pas de taux d'intérêt.
De dividendes.
De taux d'intérêt sur l'obligation.
Ah oui, d'accord, sur l'obligation.
Il n'émet pas. Donc, une façon pour les gens qui préfèrent, qui laissent leur truc monter tranquillement, et ça monte exactement de 4% par an, avec, si les taux d'intérêt sont de 4, avec chaque année, tu montes de 4%.
C'est pas mal.
C'est très bien, moi je m'en tiens. Alors, pour te donner une idée, quand Volcker a mis les taux, là, c'était en 2001, Exxon, qui était la plus grande société pétrolière du monde,
bien
et qui l'est toujours, avait émis des zéro coupons à 20 ans, donc tu allais de 2 à 4. C'est-à-dire qu'en 20 ans, tu étais certain de passer de 4 à 100.
Incroyable, très bien.
Ben, c'est mieux que l'or.
Ben oui.
Et donc à ce moment-là, les gens se sont dit, bon, ben, je vais vendre mon or.
Et je vais acheter du
zéro coupon. Et à ce moment-là, l'or baisse, jusqu'au moment où les taux d'intérêt deviennent négatifs. aux alentours de 2007, 2008, 2010, avec ce crétin de Bernanke, etc. Et à ce moment-là, le mouvement repart dans l'autre sens. Et là où j'ai un problème, c'est que maintenant, les marchés, l'or hésite en ce moment.
Il est aux alentours. Et le zéro coupon, du coup, il n'y en a plus tellement dans ces cas-là?
Si, il y en a, mais si tu veux, par exemple, en France, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, ton zéro coupon, il était à 100. Ils émettaient à 100 et dans 10 ans, ils te rendaient 100.
Ouais.
Tu vois, c'était moins bien que d'aller de 4 à 100. Quoi.
Ouais.
Fallait être complètement crétin pour l'acheter. Et même, en Allemagne, ils ont eu des taux négatifs pendant un petit moment, nous aussi d'ailleurs, mais en Allemagne, ça a duré. Les zéro coupons étaient à 103, 104. C'est-à-dire que...
Et on te remboursait...
100.
100, donc, 98. Waouh,
ouais,
merci.
Non, entre, tu payais 104 et on te remboursait 100.
100, ouais.
Et alors, j'avais des clients en Hollande, dans les grands fonds de pension, je les ai toujours d'ailleurs, qui avaient cessé d'acheter des obligations. Si tu les as achetées à 104, et où tu étais certain de perdre.
Ouais.
Certain, mais certain, à 100%. Et ceux qui contrôlent les fonds de pension en Hollande, c'est la Banque Centrale, et la Banque Centrale leur a dit, dites donc, ils doivent avoir 40 ou 50% d'obligations d'État dans leurs fonds. Vous n'avez plus 40 ou 50%, vous avez trop de cash. Et le gérant a dit, oui, j'ai trop de cash, mais vous savez, là, si je l'achète à 104, je vais perdre, là. Mmh. Et la Banque Centrale leur a dit, rien à foutre, vous respectez la réglementation, vous achetez à 104. Tu vois, c'est pour te dire une idée que les réglementations étatiques peuvent t'obliger à perdre de l'argent. Et donc, c'est une autre raison d'acheter de l'or. Quoi. Donc, j'imagine que le gérant en question, donc il achète l'obligation pour son fonds de pension, et lui, il s'achetait de l'or à côté. Quoi, parce que
oui.
parce qu'il n'était pas idiot. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu en hésitation, parce que les gens pensent que la monnaie de banque centrale, M0, là, va rebaisser. C'est-à-dire que la banque centrale va réussir, va refaire un coup à la Volcker. Mais comme je te l'expliquais tout à l'heure, compte tenu des déficits, je ne vois pas comment c'est possible.
Ouais.
Si la Banque Centrale n'achète pas les obligations, les taux américains vont passer à 10, parce que c'est le seul moment où il y aura suffisamment de gens pour acheter. Donc, encore une fois, je me retrouve dans cette espèce de scénario où il n'y a pas de sortie de marché. Il n'y a pas de sortie logique. Et quand il n'y a pas de sortie logique, moi j'ai tendance à me dire, je vais retourner vers l'illogique, c'est-à-dire je vais m'acheter de l'or, quoi. Si un gars comme moi qui a passé sa vie à essayer de gagner de l'argent sans travailler se rend compte qu'il n'y a pas de façon, on m'a bouché toutes les sorties, tous les endroits où je pouvais aller, où je pouvais me... Et je dis, je vais enterrer mon talent, quoi. Je peux pas faire autrement, et c'est très agaçant parce que c'est une façon de démasculer les marchés, parce que le rôle des marchés, c'est quand même de traiter tout ce qui se passe. Mmh. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que les marchés sont des mécanismes extraordinairement efficients, extraordinairement subtils. Eh bien, aujourd'hui, les marchés sont devenus la propriété de crétins. Entre ceux qui font les réglementations, ceux qui t'interdisent ceci, ceux qui t'interdisent cela, etc. Moi, j'ai été voir un de mes... pendant 4-5 ans, ils sont toujours clients, mais j'allais voir une des principales compagnies d'assurance françaises, je leur disais, achetez des obligations chinoises. Tu sais, c'était la grande époque, qui ont fait infiniment mieux que les obligations françaises. Et au bout de 3 ou 4 fois où ils m'ont vu comme ça, ils m'ont dit, écoutez, vous êtes gentil, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est-à-dire que le contrôle des assurances à Paris interdit une obligation française, ça c'est pas dangereux du tout, une réserve obligatoire de zéro, mais une obligation chinoise, il faut une réserve obligatoire de 40%, c'est-à-dire que ça bouffe tellement de capital que vous pouvez pas l'acheter.
Voilà. Mais c'était pareil quand tu étais au conseil de score aussi.
Pareil, conseil de score, voilà. On voulait acheter des... obligations de Nestlé en France suisse. On peut imaginer plus
risqué.
Il y a plus risqué dans l'histoire. Bon, je crois qu'il fallait mettre 30% de réserve de change, de réserve obligatoire ou quelque chose comme ça. Des actions Nestlé qui payaient plus que les obligations en dividendes.
Nestlé, on est aussi sur du pérenne.
Donc 40% de réserve obligatoire.
Ça va pas liquider demain, Nestlé.
Et des obligations italiennes ou grecques, zéro de réserve obligatoire. Ouais. Donc on était.
L'obligation. Grec est sûr.
C'est le seul pays dans l'histoire qui n'ait jamais remboursé une de ses obligations. Il existe depuis 1840. Hein. Il a émis très souvent des obligations dans le marché et aucune de ses obligations n'a jamais été remboursée.
Mais cette fois-ci, ça va
Mais cette
différent.
Fois-ci, ça va être différent.
Je te jure, chérie, je ne vais pas au bal.
C'est exactement ça. Non, non, c'est un... Je ne vais pas aller boire avec mes copains. Voilà. C'est ça. C'était la chanson de ce brave gars qui était de Toulouse, là. Tu sais, je suis sous ton balcon, là.
Ah, je ne connais pas celle-là. Je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas pouvoir t'aider.
Marie-Christine. Marie-Christine.
Non, c'est
tu pas... Tu ne connais pas
non, non, ça doit
Claude
être un
Nougaro. Truc...
Ah oui, oui.
Claude
ah, bah,
Nougaro,
oui,
où, elle, où les types étaient sur son balcon en train de parler à sa femme et disant, tu sais, mes copains, ils sont tous venus dire que je ne boirai plus. D'ailleurs, ils sont tous là. Il disait, je ne boirai plus. D'ailleurs, ils sont... Type, il était aviné. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe en ce moment, tu crois. Voilà. Quand je vois Monsieur Le Maire, je pense à Marie-Christine, tu vois.
C'est, voilà, c'est...
C'est un peu atterrant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur l'or, c'est que c'est pas une décision sur l'or. J'ai pas fait de calcul savant pour savoir combien d'or sortait chaque année des mines, combien a été acheté par les banques centrales, combien a été acheté par le particulier, combien il y avait d'or en Inde, etc. Je dis simplement, ils ont foutu le système de monnaie en l'air. Mmh. Et donc, maintenant, il va falloir essayer de se dépatouiller. Ça va pas être beau à voir, quoi. Et je vois pas comment un pays comme la France peut s'en sortir sans, par exemple, annoncer que la moitié des dettes ne sont pas repayées, tu vois.
C'est-à-dire faire oui, un, mais s'ils si, si font ça, ça veut dire que c'est le petit épargnant qui avait...
C'est pour ça que j'ai dit aux gens dans vos...
Oui, bien sûr, mais s'ils font une faillite des deux tiers ou un truc comme ça, ça va toucher les épargnants français, la veuve de Carpentras, par définition.
Mais c'est effrayant. Et tous les gens qui mettent leur argent dans le livret A, etc., c'est pareil, c'est...
Donc, et les assurances-vie vont prendre le bouillon.
Et alors, il y a des tas de gens aussi qui, dans ces circonstances comme ça, se disent « Bon, je vais me mettre en billets, et je vais les foutre dans mon matelas. » Oui, mais bouge pas tes billets dans ton matelas, ils vont baisser de 90% en valeur aussi.
Il est certain que, de toute façon, dans un cycle inflationniste, tu n'as pas intérêt à faire ça.
Mais non. Alors, vous pouvez avoir des billets suisses dans votre matelas, si vous pouvez. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Vous allez faire un tour à l'aéroport de Genève et vous changez vos euros en francs suisses.
Je pense que tu peux changer dans n'importe quel bureau de change.
Oui, dans n'importe quel bureau de change. Vous allez avoir quelques billets, quelques francs suisses
dans son matelas.
Dans son matelas. Une monnaie, et oui. Je peux raconter l'histoire que je raconte toujours, mais que vous avez déjà entendu. Mais c'est le privilège des vieux d'être gâteux et de raconter les mêmes histoires. C'est quand j'ai commencé, donc j'avais 27-28 ans, j'étais à la Banque de Suez. Il y avait le gars du bureau d'à côté qui était italien. Et l'italien en question, à la fin de chaque mois, quand on le payait, il achetait 4 louis d'or. En plus. Alors, au bout d'un petit moment, j'ai dit, l'or, c'était dans les années 70 où l'or n'avait pas bougé depuis. Il était fixé. Enfin, il ne se passait rien sur l'or. Alors, j'ai été le voir. J'ai dit, alors, pourquoi tu achètes de l'or? Parce que moi, je suis toujours curieux. Hein. Il m'a dit, écoute, je suis Lombard. Alors, Lombard, c'est les gars qui sont donc dans la plaine du Pô, là. Et ils ont vu passer à peu près toutes les invasions. Les Huns, ils ont vu passer tout le monde. Ils se sont fait massacrer, etc. Il dit, depuis 20 siècles, à peu près, dans la plaine du Pô, là, en Lombardie, avec une pièce d'or, tu nourris une famille de quatre pendant une semaine auprès de n'importe quel paysan. Donc, alors le gars me dit, moi, on m'explique que... Mais on nous a expliqué ça, je sais pas combien de fois, en Lombardie, et on a vu les mecs arriver quand même.
Donc, si ça te fait rien,
je vais continuer à acheter. J'ai souvent pensé à lui parce que le Napoléon.
Aujourd'hui, il doit avoir un bon sac. Hein.
Mais c'est
s'il
pas
fait ça,
regarde,
ça toutes les semaines.
Sans vouloir, si je regarde le premier graphique, attends, ouais. Que je te dise des bêtises. Donc c'était en 70, l'or valait 34, allez,
oui.
Et aujourd'hui il vaut 2000.
Oui, ça va bien pour lui.
C'est-à-dire qu'il a multiplié de 40 à 2000, ça fait combien, 50 fois?
Oui.
Bon, je suis sûr qu'il a gardé son pouvoir d'achat, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc son raisonnement, alors c'est pas les Huns ou les Hongrois, ouais. C'est pas les qui sont venus.
Aujourd'hui, il a pu s'acheter une ferme où il est sûr qu'il a suffisamment de poulets.
Voilà, exactement. Il peut sans doute acheter une ferme. Mais c'est pas les Huns qui sont venus ou les Visigoths ou les autres, ou les Ostrogoths ou je sais pas quoi. C'est la Commission européenne.
Ouais.
C'est la BCE, c'est tout ça qui est arrivé. Donc, c'est pas une destruction qui vient de l'extérieur, c'est une destruction qui vient de l'intérieur. Mais dans les...
Ça, c'est, les gens me disent souvent, oui, les États-Unis sont jaloux de l'Europe, ils font tout pour nous détruire. Je dis, ah ben non, on a fait ça vraiment comme des grands.
Laisse faire les Allemands et tous les 40 ans, l'Europe est détruite. Ça, c'est sûr, ça, c'est...
En tout cas, on a fait ça tout seul.
On a fait ça tout seul.
On a fait ça tout seul, nous, en clouant la main de l'Allemagne sur la table des négociations avec l'euro. Et on a fait ça comme des grands avec la BCE, en donnant toutes nos souverainetés. On n'a pas eu besoin d'aide. Franchement, là, on a été...
On est parfaitement indépendant et complètement stupide. Donc, alors, ça, c'est ce que je vous dis. Mais alors, c'est le côté, dans nos pays, on est devenu fou. Mais maintenant, si je regarde le reste du monde, ce qu'il est convenu d'appeler les BRICS, eux, pendant les 40 ou 50 dernières années avant celle-ci, ils ont fait à peu près toutes les bêtises monétaires qu'on pouvait faire. Tu vois, eux, ils ont foutu en l'air leur système de... là-haut, et ben depuis 5-10 ans, ils ne le font plus. Et donc, tu vois des pays comme la Chine, dont j'ai souvent parlé, tous les pays autour de la Chine, toute une série de pays en Amérique latine, du style du Brésil, qui rémunèrent convenablement l'épargne, la Bolivie, le Mexique, tous ces pays-là, ça carbure très bien, et ils ont d'excellents système monétaire en concurrence ouverte avec les autres systèmes monétaires dans le monde. Parce que nous, ce qu'on a fait en Europe et aux États-Unis, on a fait un cartel des banques centrales, comme ça, on faisait tous les mêmes bêtises en même temps et on pensait que ça n'aurait pas d'impact. Sauf que eux, ils étaient en dehors de ce cartel et donc ils ont géré leur affaire comme il faut. Donc, tu vois, que j'arrive comme conclusion, c'est que comme notre système monétaire est en train de sauter, mais pas le leur, on peut aller chez eux. Mais le problème que j'ai, c'est, bon, il faut acheter des obligations. Bon, c'est pas facile, il y en a pas beaucoup, parce que généralement, les déficits budgétaires sont faibles ou n'importe quoi. Mais la vraie question que je me pose, c'est quand je regarde les marchés des actions, 90% de la capitalisation boursière des actions, c'est chez nous. C'est chez eux que ça va bien marcher, c'est chez eux qu'il va y avoir de la croissance. Mais ils ont rien de côté. Tu vas acheter de l'immobilier, je sais pas, à Jakarta ou j'en sais rien. Comment tu fais, pratiquement?
Ça va peut-être se monter très vite.
Ça va se monter très vite, mais en attendant, toi, tu ne peux pas y arriver. Donc, ce qu'il faut, c'est un des éléments que j'ai beaucoup développé ici, ce qu'il faut, c'est trouver des sociétés, justement, comme Schneider, Air Liquide, etc., qui, eux, travaillent dans ces pays-là depuis longtemps, qui ont 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires là-bas, et qui...
Mais alors, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux acheter des sociétés chinoises qui font ça? Parce que tu as dit que la Chine, avec l'initiative Belt and Road et ainsi de suite, allait vendre tout son acier, tout son machin, dans ces pays émergents.
Oui, mais pour l'instant, ils perdent de l'argent. Et puis, il n'y en a pas du tout à la même qualité de...
De finition
de pas de finition, mais de contrôle. Tu sais pas très bien ce que tu achètes. Moi, j'avais un de mes amis qui avait créé un fonds il y a quelques années, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai pas suivi depuis, mais qui n'achetait dans les pays émergents que les filiales cotées des groupes européens américains.
Parce qu'il savait qu'il y avait une vraie comptabilité, il y avait tout ça.
Donc, et puis, c'est exactement le genre de fonds qu'il faudra acheter aujourd'hui.
D'accord.
Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un double mouvement. Nous, on est en train de devenir fous comme des lapins, et eux qui l'étaient, ils sont en train de devenir raisonnables. Et ça veut dire une espèce de basculement. Ça veut dire que nos monnaies vont baisser très fortement par rapport aux leurs.
Oui. Ah oui, ça, mais tu l'as dit depuis un moment que c'était fini les vacances à Bali.
Par contre, les Baliniers, ils vont tous venir passer la vacance dans la Creuse.
Pour tous les Gaulois qui partaient là-bas avec leur, retraite.
Ou avec leur RSA, on appelle ça, non?
Oui.
RSA, oui, c'est, tu vis bien. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'il y a un double mouvement qui se passe. Nous, on est devenus fous, puis le reste du monde, il est devenu raisonnable. Et du coup, quand on va là-bas, quand on leur parle, ils nous disent « mais vous êtes devenus complètement fous ».
Oui, ben oui.
Et c'est un truc aussi qui est curieux, c'est de se faire donner des leçons de rationalité. Il y a un type que je suis un peu sur le net, si tu veux, qui est un musulman convaincu, très bien, mais qui du coup nous explique que la religion musulmane comprend beaucoup mieux le monde, et les hommes et les femmes, que nous. Parce qu'il dit les LGBTQ, c'est des fous et tout. Donc, tu vois arriver des mollahs qui t'expliquent que, dans le fond, les femmes, elles demandent à être traitées comme on les traite souvent dans le monde musulman. tu te dis, je suis pas vraiment convaincu, mais il le dit avec beaucoup de bonne foi, vous voyez. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça leur donne une espèce de supériorité morale d'un seul coup. Ils se sentent à l'aise pour dire.
Il est certain que si on est fou partout, c'est-à-dire dans notre vie de société et dans les modèles économiques qu'on propose, au bout d'un moment, ils disent, mais votre société est complètement pourrie.
Mais voilà.
Puisque rien ne rattache à rien.
Rien
donc,
ne rattache
évidemment.
À rien.
Et il est certain que quand on voit, pardon, mais des jeunes personnes changer de sexe à 16 ans, être dans ces...
Mais à 16 ans encore, mais qu'on leur fait faire des opérations à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Des enfants qui sont pas... En principe, dans le droit français, il y avait une interdiction de la... Tu sais, quand les gens s'abîment, de se coupent les bras.
Oui. C'est l'indisponibilité du corps humain. Et normalement, tu as la notion de dignité de la personne. Et au nom de la dignité de la personne, tu ne peux pas...
Tu ne peux pas faire ça à un enfant qui n'est pas...
Et alors, normalement, effectivement, le parcours pour arriver à ça, de demander un parcours psychologique très long.
Très long.
Autrefois,
enfin, il y a des cliniques qui s'ouvrent partout aux États-Unis pour faire des changements de sexe à des enfants de 8-9 ans. Mais c'est monstrueux.
Alors, j'en parlais avec un médecin le week-end dernier qui fait ça à l'hôpital Saint-Louis, en plus de qui est chirurgien esthétique. Et il me disait que autant on arrive très bien, ils arrivent très bien à faire le changement pour recréer une femme. Donc, ça s'est assez trompé sur certains hommes. Mais en revanche, l'inverse de créer des phallus est vraiment pas du tout au point et que c'est extrêmement douloureux et pas du tout au point. Voilà.
Enfin, donc, ça n'a rien à voir avec l'or, mais enfin, je veux dire,
c'est-à-dire
que l'or, c'est aussi une façon de se protéger contre un dérèglement civilisationnel.
Bien sûr.
Voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de dire. C'est mon histoire des 4 pièces d'or de mon. Si vous avez des émeutes, etc., je vous donne un exemple stupide. Imaginez qu'il y ait des événements graves qui se passent en France, c'est pas ce que je souhaite, mais ça pourrait arriver.
Des émeutes comme on a eu à la fin de l'été, enfin au début de l'été.
Mais qui deviennent beaucoup plus graves, qui perdurent.
Eh bien,
il y a assez de bouffe à Paris pour 2 jours.
Moi, je vais te dire, j'ai très peur des Jeux Olympiques. Je me dis qu'avec la gestion qu'on connaît de Paris, on est capable d'avoir des ruptures alimentaires ici.
Mais voilà, donc tout le système de logistique qui fonctionne avec de l'énergie, une fois de plus, peut se rompre à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, j'imagine que si on prend sa trottinette et qu'on va dans les plaines agricoles autour de Versailles ou j'en sais rien, on trouvera peut-être un paysan qui sera prêt à nous filer quelques trucs pour une pièce d'or. Tu vois ce que je veux dire ? L'or, c'est un truc idiot si tout va bien.
Oui.
Mais si tout va mal, ça cesse d'être idiot.
Voilà, écoute, je trouve que c'est un joli mot de la fin, ça, non ?
Oui, tout à fait.
J'espère que ça ne vous aura pas trop déprimé, mais on a quand même appris des choses intéressantes sur une possible faillite des États-Unis, une possible faillite de l'Europe, ça...
Pas une faillite, mais un dérèglement monétaire dont on ne sait pas comment il va se produire, mais qui est inévitable.
Voilà, donc
c'est pas une faillite, mais il va se passer des choses. Alors, ils vont mettre des contrôles d'échange, ils vont mettre des contrôles des prix, ils vont mettre des contrôles des mouvements de capitaux, ils vont essayer
mais
de...
Ça nous prend au nez. Et c'est ce qu'ils veulent avec les monnaies numériques aussi.
C'est ce qu'ils veulent avec les monnaies numériques. Donc on voit très bien qu'ils commencent à s'organiser pour coincer tout le monde de façon à ce qu'on puisse...
Maintenant que tout le monde est bien coincé dans l'immobilier aussi.
Voilà.
Hein, voilà.
Ils sont en train de commencer à massacrer l'immobilier, ce qu'on vous a dit ici 10 fois.
Voilà. Et ça va continuer sur le monétaire en essayant de priver tout le monde de liberté.
Voilà. Et le but essentiel, c'est que nous soyons tous...
comme des esclaves à la glèbe.
Attachés à la glèbe, c'est-à-dire que les paysans dans le temps, les serfs, c'était ça, le servage, c'était ça. Si vous n'aviez pas le droit de quitter la terre où vous étiez né, quoi. C'était pas à vous, mais vous ne pouviez pas bouger de cette terre-là.
Voilà.
Donc,
bien
ils veulent nous empêcher de bouger, ils veulent nous empêcher d'être libres, ils veulent nous empêcher, et pour ça, il faut foutre en l'air la monnaie.
Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous aura appris
remonter
le moral, appris, non, mais cela dit, des choses intéressantes. Et merci de nous suivre, n'oubliez pas de mettre des likes, d'en parler autour de vous, et puis on va essayer...
On est toujours qu'à 272 000, ou 313 000, donc là...
C'est pas de leur faute ceux qui sont là, donc tu sais,
non,
c'est comme quand tu vas
rien.
À la messe et que tu te fais engueuler, tu dis mais moi je suis là.
Oui, parce que t'es bruit, c'est vrai ça.
Oui, tu sais, et l'autre, oui, plus personne ne vient, tu dis bah oui, mais m'engueulez pas moi, engueulez ceux qui sont dehors.
C'est vrai ça.
Voilà, enfin, donc ça merci d'être là et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.